Les chroniques du vivant de Corinne.
Interview réalisée le 9 octobre 2024.
Bonjour à toutes et à tous. Des jardins vivants, respectueux des sols, de la biodiversité. Des jardins qui laissent de la place à la vie en partage, avec des intervenants jardiniers fonctionnant sur un mode collectif et se battant aussi pour préserver les terres nourricières. Aujourd'hui, nous partons au jardin partagé du Sablassou à Castelnau-le-Lez en compagnie de Nelly, à qui je passe la parole.
Vous fonctionnez ici en permaculture ?
Oui, permaculture, aucun intrant chimique.
Le cœur du mandala est fait avec des plantes aromatiques. Je vois que vous paillez les sols, donc il y a une bonne protection du sol.
Oui.
D'accord.
Ici, l'amendement, il est fait soit avec du fumier de cheval, parce qu'il y a des voisins qui ont des terres et on récupère le fumier de cheval, soit avec du migou, qu'on fait venir de Téran, parce qu'à Téran, il y a un élevage de brebis.
Et vous êtes nombreux sur le jardin partagé du Sablassou ?
Alors, il y a les adhérents à l'association, parce que les adhérents ne sont pas tous jardiniers. Il y a des sympathisants, des gens qui soutiennent. Et puis, il y a les jardiniers. Alors là, ça fait un an qu'il y a une belle équipe. On tourne à 20 en gros, mais on n'est jamais les 20, mais même en plein été, on était 15, 16,
alors que les étés
précédents, tu pouvais être 3, 4 sur cette superficie, on était assez découragés.
Au niveau du fonctionnement, c'est un jardin collectif ou chacun a son petit morceau ou...
Non, là c'est un vrai jardin partagé, c'est-à-dire qu'on décide des semences ensemble, il y a un petit comité semences qui s'intéresse à la rotation des cultures, qui programme un peu les achats, les semences, les semis à faire.
D'accord, vous fabriquez vos propres semences
En général, oui.
D'accord.
Oui,
très bien.
Et là, on garde nos graines là, sur les courges, sur des tomates, et on essaie de faire nos propres semis avec nos tailles.
D'accord.
Mais quand c'est pas possible, on achète.
En fait, vous voyez que la terre est très belle, sauf qu'au début, on rentrait même pas une grelinette.
La terre est sableuse.
Elle est sableuse, mais elle n'avait pas été utilisée pendant 10 ans, donc bien tassée. Voilà.
D'accord.
Elle avait aussi bouffé du pesticide pendant toute l'exploitation avant, parce que le monsieur qui avait cette terre était un maraîcher. Et dans la serre qui était là-bas derrière, qu'on a déplacée, en fait, on a trouvé des centaines de produits chimiques. Mais bon, pendant 10 ans, il n'y avait rien eu. Donc la terre a digéré tout ça et ça nous a permis de démarrer sur une terre propre.
D'accord.
Voilà. Mais je te dis, on ne rentre pas à la grelinette, donc on a amendé, on a retourné,
il y a eu un gros travail d'amendement des sols.
Exactement.
Mais chapeau pour le résultat. Hein.
C'est parti.
Je viens vers Françoise qui voudrait bien nous parler d'agroécologie. Est-ce qu'ici, déjà au niveau des jardins, vous fonctionnez en agroécologie?
Alors moi, ce que je connais, c'est l'agroécologie que j'ai appris à Terre et Humanisme auprès de Pierre Rabhi.
Oui.
Donc c'est à la fois la dimension agricole et une dimension humaine qui est très importante. Ici, on travaille avec des fumiers compostés depuis cette année et on obtient des très très bons résultats. Paillage et fumier composté. On fait les associations aussi, mais bon, c'est assez classique. Et on fait de la diversification. En fait, ici, on est sur une terre très sableuse. Donc, il y a des légumes qui ne vont pas très bien fonctionner, comme les épinards. Ils n'aiment pas trop cette terre un peu acide. Mais bon, les racines, par exemple, ça va très, très bien marcher.
D'accord. Et au niveau de l'irrigation, donc, la terre, elle retient bien, elle retient pas trop l'eau,
elle
normalement.
Elle retient pas
du tout.
Voilà, elle retient pas l'eau. Donc, c'est vrai qu'on va arroser un peu plus et il faudrait pailler beaucoup plus.
Est-ce que vous fonctionnez en aménageant aussi des espaces pour la biodiversité, des espaces non cultivés, des abris,
des
refuges un peu pour les
alors
pour
des mini-friches, il y en a tout autour en fait.
Oui.
On laisse des bandes enherbées partout ici.
Ah ça c'est
ici,
important.
Ici. Qu'on fauche un peu parce que sinon bon, on a l'herbe jusqu'au genou. Mais globalement, on laisse pas mal fleurir au printemps et tout.
D'accord.
On essaye de faire un compromis.
Attirer les pollinisateurs, les oiseaux,
voilà.
La petite faune utile.
Oui.
Vous fabriquez vos propres purins, tisanes, décoctions, enfin ce que j'appelle moi les potions magiques.
Alors ce qu'on fait, c'est on fait des extraits fermentés d'ortie et qu'on soude.
Oui.
Fortifier en fait les plantes.
Bien sûr.
Parce que le principe, l'agriculture biologique, agroécologique, biodynamie, c'est renforcer les plantes en fait. C'est nourrir le sol pour nourrir les plantes et renforcer les plantes. Donc diversifier les fumiers aussi, parce qu'on sait que les fumiers, le fumier de cheval et le fumier de mouton, ça n'apporte pas les mêmes minéraux.
D'accord.
Donc on essaye de diversifier, de mélanger aussi ça. Et on fait aussi notre propre compost qui sera 100% végétal. Donc on alimente en végétal et en animal aussi.
Très bien. Je vous remercie. Je pars à la rencontre d'Hubert qui est dans les jardins du Sable à Soux depuis l'origine.
Oui.
Quelle a été l'idée de départ pour ces jardins ?
Eh bien, l'idée de départ, c'était de mettre en valeur les terres agricoles du secteur, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont abandonnées ou délaissées, tout simplement. Hein. Donc ici, on est sur un terrain qui était exploité en maraîchage il y a 30-40 ans. Et depuis le décès en fait, du propriétaire, qui a été un peu subi, eh bien, il n'y a plus eu de culture sur ce terrain pendant 30-40 ans.
Alors, le nom de l'association, c'est ?
Le nom de l'association, c'est Maraîchons à Sable à Soux et Castelnau Sud. Vous l'avez compris, on est sur le terrain de Castelnau, le Lez.
Oui, oui.
Et Sable à Soux, c'est un coin qui est le prolongement de la plaine de Camargue, qui vient jusqu'au bord de Montpellier et qui touche donc le Castelnau à ce niveau-là. On est d'ailleurs desservi par l'eau du canal du Baronne, qui vient jusqu'ici, mais qui va jusqu'à bien plus loin, je crois, vers Clermont-Lérault aussi, il me semble, mais plutôt vers Béziers, jusqu'à Béziers. Donc en fait, on se trouve sur la fin de la plaine de la Camargue. Donc en fait, on est sur une terre qui est très riche, qui est sablonneuse. Il y a du sable en dessous, c'est pour ça qu'on appelle ça Sable à Soux. Donc c'est une terre qui est propice à la culture. Ici, historiquement, c'était un coin où il y avait de la culture. Donc le but de l'association, c'était aussi de remettre en activité certaines terres. Certains des propriétaires attendent simplement la spéculation. De l'autre côté de la voie ferrée, ici, on est...
Effrayant. Voilà. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue, mais c'est effrayant, là, l'urbanisation.
Voilà. Alors, ce côté-là touche pratiquement Montpellier dans une zone très développée, qui est celle du millénaire et qui se développe vers Castelnau. À l'inverse, Castelnau se développe vers Montpellier. Et à terme, si on ne fait rien, eh bien, toutes ces terres qui sont vraiment des terres nourricières deviendront des terres de bâtiments, de parking, d'activités commerciales, artificialisées. Quoi.
Malheureusement, c'est un peu partout pareil. Hein.
Et donc ici, on a la chance d'avoir une propriétaire qui voulait redonner une vie à cette terre qui était la terre de culture de ses parents. Et donc, elle nous a confié cette terre avec un bail de commoda de 3 ans.
Alors, qu'est-ce que c'est justement un bail de commoda ?
C'était un accord de commoda, c'est-à-dire on définit certaines commodités et usages du terrain ensemble. Et on signe, par exemple, ici, on n'a pas prévu de construire de cabane, mais nos propriétaires ne veulent pas non plus qu'on mette en place, par exemple, des grands arbres fruitiers, parce qu'on est quand même sur un bail de 3 ans qu'on vient de renouveler, mais on n'a pas un engagement décennal ou au-delà.
Oui.
Notre propriétaire, par prudence, a préféré partir sur 3 ans renouvelables. Donc on vient de renouveler là, cet hiver. Là, on a renouvelé pour 3 ans. Donc
d'accord.
C'est reparti. On est à la 4e année du projet. Quoi.
D'accord.
Et donc en fait l'idée c'était de mobiliser aussi des propriétaires qui, au lieu d'attendre la spéculation, nous confient leurs terres et pour qu'on les mette en culture. On n'a pas eu énormément de succès de ce côté-là, faut dire. Je pense que la tentation de la spéculation fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Quoi. Les jardins et les maraîchages disparaissent de ce secteur-là progressivement. Donc on est très content d'avoir ce bail de commoda, parce que là on est sur un terrain de 4600 m2.
Oui, c'est quand même, oui.
Et ça fonctionne plutôt bien. On est plutôt content.
D'accord.
C'est notre
oui, vous avez année. L'air d'être une sacrée équipe. Ça a l'air d'être très vivant. Quoi.
Puis on est sur un objectif collectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vocation à accueillir des petits carrés familiaux, comme c'est souvent le cas dans les jardins partagés. On a un terrain qui est beaucoup trop grand pour ça. Ça serait très compliqué. Donc on est plutôt parti sur un objectif de culture en commun. Donc on a parmi nous quelques personnes qui ont un peu plus de compétences que les autres, qui ont formé un petit groupe qu'on appelle le groupe programmation des cultures et qui nous prépare un calendrier de culture été-hiver. Alors, en prenant bien soin aussi des successions des cultures et de la rotation des cultures.
La rotation et les associations,
associations. Et donc, on prépare tout ça ensemble. Donc, nous sommes sur un jardin partagé dont l'objectif est partagé et les méthodes, cultures, outils et personnes travaillent tous ensemble. pour mettre en place le programme de culture qui a été élaboré par les 4-5 personnes qui sont un peu plus savantes, on va dire, ou sachantes, chez nous. Donc nous avons, sur ces 4300 ou 4500 mètres, nous avons utilisé pas la totalité du terrain, parce que vous voyez, il y a aussi des coins à arborer. Et donc on a utilisé à peu près la moitié de la surface, et avec des rangées parallèles, comme d'habitude, des rangs de culture qui font un peu plus d'une dizaine de mètres, il y en a 16.
Et un
principe de mandala.
Joli mandala. Voilà. En général, ça fait partie du design en permaculture. Ça.
Voilà. Donc le mandala, en fait, c'est un plan rond, donc, avec des allées qui sont circulaires, qui font des arcs de cercle. Et l'avantage du mandala, c'est que c'est très sympa d'y travailler, de voir les collègues. On est des fois en train d'arracher ceci, les autres plantes cela, mais on n'est pas éloigné.
Le collectif a vraiment une grande importance
ici. Oui, c'est une grande importance. Ouais. L'ambiance est quand même très importante pour nous. Ouais. C'est l'idée, c'est qu'on partage les galères, mais qu'on partage aussi les cultures. Donc en fait, on se retrouve ici deux fois par semaine, le samedi matin et le mercredi matin. Et à l'issue de chacune des matinées, eh bien, on a des récoltes plus ou moins importantes selon la saison. Et ces récoltes sont partagées par ceux qui...
Elles sont partagées, mais est-ce que vous faites de la vente aussi? Est-ce que...
Non.
De vos légumes?
On n'a pas suffisamment de production pour faire de la vente. C'est un peu compliqué. Par contre, on a un autre aspect dans notre projet qui est un aspect plus festif.
Oui.
On utilise tout ou partie de nos cultures pour des cantines populaires qu'on organise... Deux, trois, quatre fois dans l'année.
C'est sur place ?
C'est pas sur place, c'est sur le terrain qui est un peu plus loin, à 500 mètres à vol d'oiseau, qui est le terrain de notre président qui, lui, avait aussi, qui est à l'origine du projet, et qui avait sur son terrain, qui fait 2000 mètres carrés, mis à disposition de jeunes permaculteurs il y a quelques années, une partie de son terrain. C'est ce qui lui a donné un peu l'idée du projet.
D'accord.
Et quand il a entendu qu'il y avait un appel à projet du département, il y a 4 ans, enfin c'était en 2019, il a postulé sur ce dossier, on a été retenu et c'est ce qui a permis de démarrer le projet.
C'est super. Ça s'est monté en quelle année, ces jardins?
En fait, on a été lauréat du budget participatif du département de l'Hérault de 2019. Donc on a monté le projet fin 2019, début 2020.
D'accord, donc c'est pas très très vieux non plus.
Non.
Mais vous êtes arrivé à un bon résultat, parce que il y avait une de vos collègues qui me disait que le terrain au début c'était pas gagné quoi.
Le terrain il était en friche complètement, c'est-à-dire qu'il était à l'abandon, il était fauché une fois ou deux dans l'année pour une question peut-être de sécurité incendie et c'est tout quoi. Et donc c'est vrai qu'au début ça a été très très difficile. En même temps, comme il n'a pas été exploité depuis 30-40 ans, bien, en fait, on peut partir sur une agriculture bio, bien que ce ne soit pas notre objectif que d'avoir un label. On sait que le terrain, il a été lessivé des entrants qu'il y a pu y avoir, et je sais qu'il y en a eu, parce que quand on a repris le terrain, dans la serre qu'on a réhabilitée, on a quand même trouvé un peu tout l'historique des produits phytosanitaires des années 50.
Donc,
est à peu près sûr qu'ils ont été utilisés sur ce terrain-là.
Oui.
Maintenant, ils sont certainement en quantité infinitésimale. Ils sont présents sans doute.
D'accord. Frédéric nous a rejoint. Frédéric est le président de l'association de maraîchons à Sablassou.
Bonjour.
Donc, est-ce que ce jardin a aussi d'autres vocations que celle nourricière, disons?
En fait, on vient créer un tiers-lieu nourricier.
Oui.
C'est un objectif à terme. Et dans ce cadre, on invite... des partenaires à venir participer aux ateliers en termes de scolaires ou enfants.
Vous organisez des ateliers donc?
Oui, on a fait des ateliers avec le lycée agricole Honoré de Balzac de Castelnau-de-Lez.
Oui.
On en a fait 6 l'an dernier et on a eu la visite du village qui est une école Montessori.
Ah, très bien, oui.
Qui se trouve à Castelnau-de-Lez au niveau du rond-point Charles de Gaulle. Pendant le Covid, on a accueilli des enfants pour justement leur faire prendre l'air et faire des ateliers de poterie. Donc c'est un peu multifonctionnel et on veut en faire un tiers-lieu de nourricier au départ, mais où on pourrait faire d'autres activités en cas où il y ait d'autres confinements, d'autres... Voilà. Et c'est qu'un début puisque en fait on cherche d'autres terrains pour dupliquer ce qu'on a fait ici.
Est-ce que vous apprenez aux enfants notamment la biodiversité, ce que c'est? Est-ce que vous avez des ateliers pédagogiques sur par exemple faire les plantations eux-mêmes ou ce genre d'initiative?
Ben, pour le lycée agricole qui sont déjà au niveau du terminal,
oui.
Plutôt première. Et il y a déjà un aspect pédagogique qui a déjà été fait. Par contre, bon, la Montessori qui doit revenir, certainement qu'on fera ça. Mais cependant, on n'a pas encore fait. On leur montre qu'on a des cabanes à oiseaux. Et on leur montre un peu le travail qui a été fait au niveau des planches, au niveau... Voilà.
Oui.
Mais sinon, ça reste là. On ne va pas leur faire travailler la terre pour
d'accord.
l'instant.
D'accord, très bien. Autre chose, j'ai donc un petit peu lu qu'il y avait un projet de réserve foncière qui pourrait avoir lieu ici, qui pourrait condamner ces terres ici.
En fait, nous, on est juste à côté, on est en frontière de cette réserve foncière. Elle a été, il y a le commissaire enquêteur qui a émis un avis défavorable.
Durant cependant, l'été, je crois, hein, ça a été...
Oui, il y a eu 1000 contributions. En fait, le projet, c'est de déménager une clinique et de nous faire un bloc de béton de 28 mètres de haut, juste en face, là, à quelques centaines, même pas centaines, une centaine de mètres,
oui.
Alors que ce sont des terres à haute valeur agricole. Ce qu'il y a, c'est que la réserve foncière donc, a eu un avis défavorable. Cependant, hier, comme le 9, il y avait le conseil de métropole. Le PLUI a été voté à l'unanimité des maires. La conseillère d'opposition de Castelnau a émis un amendement pour que l'OAP, c'est...
L'orientation d'aménagement
programmé. La programmation, soit retirée. Il n'a pas été retiré. Il y a des belles paroles, mais l'adjoint à l'urbanisme, qui s'appelle M. Champé, qui est le maire du CRES, a dit oui, on va essayer de trouver d'autres endroits pour la clinique. On va essayer.
Oui. Non. Moi, le projet n'a pas été abandonné, en tout cas. Oui.
C'est encore du vent. L'OAP, ça va permettre à la CERM et à l'ALTEMED d'organiser déjà je dirais un peu comme Orica, enfin, comme ils ont fait à Antigone. Enfin, c'est des organismes, des établissements semi-publics. ALTEMED qui va être l'organisme qui va regrouper la CERM, SA3M et ACM OPAC. C'est des organismes qui prennent une zone de 5 hectares et qui en font qui prépare pour la promotion immobilière, pour les établissements publics, pour les...
Enfin, tous les terrassements déjà
oui,
de départ.
Oui, ils parcellent, ils préparent la partie routière, les infrastructures routières, etc. Donc il faut parfaitement... Déjà, il y en a qui disent qu'on a écrit trop vite victoire. Je pense qu'il faut mettre la pression. Moi, ce soir, je serai à... Au parc Rimbaud, il y a de la fosse qui va parler, après je vais lui parler. D'abord que le PLUI climat qui a été voté hier, ça concerne toute la métropole.
D'accord, c'est pas juste
que Castelnau, il y a d'autres projets. Il y a la ZAC Nemergue où ils vont urbaniser 10 ou 12 hectares de terres agricoles aussi, à Vendarc. Ça n'en a pas trop parlé. Il y a Gimel aussi. Le coteau de Malbosque, il est revenu dessus. Enfin voilà, il faut mettre la pression parce que si on relâche la pression, ça va dérouler. Parce que tous ces établissements semi-publics comme Altemed, eux, ça leur donne du grain à moudre. C'est-à-dire que ça leur permet de fonctionner et de dire voilà, on a fait ça, on a fait ça.
Vous avez un message à faire passer?
En fait, si jamais ça continue dans ce sens-là, on va se battre sur les aspects juridiques et plus loin s'il le faut.
Je vous remercie.
Voilà.
L'artificialisation des terres, souvent fertiles, et malheureusement monnaie courante sur notre territoire, malgré les directives nationales d'une loi zéro artificialisation nette qui se vide de plus en plus de son sens, et bon nombre de dérogations accordées par les préfectures au niveau des études environnementales. Souhaitons en tout cas longue vie à l'association Maraîchons à Sablassou et à Castelnau Sud, et qu'elle puisse longtemps continuer à cultiver et à semer les graines de l'espoir dans ces magnifiques terres fertiles. Merci de votre écoute et rendez-vous au mois prochain.
Les chroniques du vivant de Corinne.